Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Vous vous souvenez? La plupart d'entre vous, vous étiez là au dernier message sur la Sainte Cène. La Sainte Cène, le repas du Seigneur, la fraction du pain est cette table dressée en face de nos adversaires. S'il y a adversaire, ça veut dire combat. Combat physique, combat psychologique, combat spirituel. Notre séjour sur terre est un combat et nous devons tout faire pour le gagner. Si nous comprenons que nous sommes dans une bataille à tout niveau, jour et nuit, si nous comprenons ce que le Seigneur a mis à notre disposition pour être plus que vainqueurs, alors nous vivrons une vie glorieuse, riche, et la Sainte Cène prendra toute sa puissance dans notre course. Donc nous avons vu que la Sainte Cène est un repas composé de deux éléments, du pain, le corps, la chair de Jésus, du vin ou du jus de raisin, le sang de Jésus. Ça, tout le monde le sait. Rien de neuf sous le soleil. Ce matin, on va principalement s'arrêter sur ce qui concerne le pain, le corps de Jésus. Le sang est tout autant important. Je ne sais pas si on peut dire plus, je ne sais pas. Mais c'est tellement riche, tout ce qu'il y aurait à dire, que je ne peux pas parler des deux choses en un même matin. Donc, ce sera pour une prochaine fois. Je n'enlève pas la puissance, la valeur du sang. Mais ce matin, je me concentrerai sur le pain, sur le corps, la chair de Jésus. Alors, nous avons vu la dernière fois que la Sainte Cène, c'est un repas sacrifice. Vous vous souvenez? Il y a une loi qui dit qu'un être spirituel peut transmettre à un autre être spirituel sa nature, ses dons, sa vie, tout ce qu'il est, au travers d'un sacrifice. Et nous sommes des êtres spirituels. Nous vivons dans un corps, nous avons une âme, une intelligence, une personnalité, mais nous sommes d'abord des êtres spirituels. Donc Satan, il a bien compris cette loi, et Satan, c'est un copieur, il n'invente rien, mais quand il copie, il déforme. Donc lui, il utilise cette loi sans se priver. Et c'est pour ça que dans le satanisme, il y a des gens qui font des sacrifices d'animaux, parfois d'êtres humains. Et en fait, pour que les gens qui veulent trafiquer avec Satan soient puissants, il faut qu'ils mangent la chair de ces animaux sacrifiés ou qu'ils boivent le sang. C'est des choses qui se passent sur notre planète. Et ça marche. C'est extrêmement puissant. Mais nous avons le sacrifice par excellence. Parce que cette loi qu'un être spirituel peut transférer toute sa nature, toute son essence même dans un autre être spirituel, c'est le Seigneur qui l'a inventé, qui l'a instauré. Nous avons le sacrifice par excellence. Et si la copie et la déformation est puissante, à combien plus forte raison ce repas-là, il doit être puissant. Et pourtant, qui sait qui peut témoigner qu'il a vécu des miracles, des transformations au travers de la Sainte Cène? Il n'y a pas beaucoup de mains levées. C'est parce qu'il y a un problème. C'est parce qu'on ne comprend pas ce que ça veut dire. Parce qu'on en a fait un symbole. Et quand je dis « on », ce n'est pas nous, l'Église de réveil de la Chaux-de-Fonds. C'est que Satan nous a volé la révélation de la Sainte Cène. Ça fait 2000 ans qu'on nous a volé quelque chose dont on a extrêmement besoin. Et moi, je pense que le Seigneur veut nous le restituer. Parce que le Seigneur, ce qu'il fait, c'est qu'il nous restitue ce que le voleur a volé. Et c'est important de comprendre. Plus on va comprendre spirituellement ce que c'est que le repas du Seigneur, plus ça va transformer nos vies. Alors, on va essayer de discerner ce qu'il y a dans le corps. Et juste la petite parenthèse, parce que je n'oublie pas le sang, dans Lévitique 17-14, il nous est dit que la vie est dans le sang. La vie. Le sang de Jésus nous donne la vie. Le sang de Jésus, il a été répandu pour nous. Donc ce n'est pas dans son sang que Jésus a pris nos péchés, c'est dans son corps. Tous les effets de notre nature déchue, ce n'est pas dans le sang de Jésus qu'on l'a mis, c'est dans son corps. Son sang, il intervient après. C'est une fois que le corps a été meurtri, lacéré, que le sang coule, que le sang se répand. Il faut d'abord que le corps soit brisé. Alors, on va revenir dans Ésaïe 53, les versets 4 à 6. On les a déjà vus la dernière fois, mais on va les reprendre. Tu peux les projeter, Lauriane, si ça marche. Super. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Ésaïe, qui a prophétisé ces choses-là, a vécu plusieurs siècles avant Jésus. Et déjà, il nous décrit le sacrifice de Jésus. C'est de Jésus dont il est question là. Et si je prends les termes hébreux, je peux le relire. Cependant, ce sont nos souffrances, nos maladies qu'il a portées. C'est de nos douleurs physiques et mentales qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités, brisé pour notre perversité, brisé pour notre dépravation. Perversité, dépravation. Ça vous concerne tous. Moi aussi. On est tous, quelque part, pervertis. On a tous été pervertis au moment de la chute. Il n'y en a pas un entre nous qui n'est pas concerné par ces mots-là. Il n'y en a pas un. On est tous concernés. Et c'est à cause de ces choses-là que Jésus se donne. Tu peux mettre, Lauriane, le Hébreux 2:10. On peut aller voir la confirmation dans le Nouveau Testament. En effet, celui pour qui et par qui toute chose existe voulait conduire à la gloire beaucoup de fils. Il lui convenait donc de qualifier parfaitement par des souffrances l'auteur de leur salut. Je me suis souvent posé la question, mais comment est-ce qu'on peut qualifier par des souffrances? Comment est-ce que c'est des souffrances qui peuvent qualifier quelqu'un? C'est terrible. Moi, je n'ai pas envie d'être qualifiée par des souffrances. Moi, j'ai envie d'être qualifiée par des dons, par des aptitudes. Je n'ai pas envie d'être qualifiée par des souffrances. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Celui pour qui et par qui toute chose existe, c'est notre Créateur, c'est le Dieu de l'univers, c'est le Tout-Puissant, Elohim. Et c'est lui, le Saint, le véritable, qui voulait conduire à la gloire beaucoup de fils, qui voulait nous conduire à la gloire. Seulement, nous sommes remplis de perversité, de dépravation, de maladie et de toutes ces conséquences de la chute. Alors, le Père qualifie Jésus, son fils, son unique, pour déverser sa colère sur lui, pour déverser son jugement sur lui. Dieu a mis toute sa colère et son jugement sur le corps de Jésus. Et nous, nous sommes restés en marge. Pendant que le jugement, pendant que la colère du Père se déverse sur le corps de Jésus, nous on est là, coupables, mais non condamnés. On peut constater ce qui se passe. C'est ça que le Père a fait. Il a qualifié Jésus par les souffrances pour que nous soyons conduits à la gloire. C'est la loi de la substitution. Jésus a pris notre place. Et ça, c'est tellement important de le comprendre. On le sait bien avec notre tête, mais on a besoin de le savoir au plus profond de nous-mêmes. Si on n'est pas conscient qu'on a un problème, si on n'est pas conscient qu'on a été entaché à la chute, on ne va pas pouvoir bénéficier de ce repas. Et si on n'en est pas conscient, on peut le demander au Saint-Esprit. Même il faut, c'est incontournable. Il faut demander au Saint-Esprit, mais révèle-moi ces choses, convainc-moi de péché, convainc-moi, montre-moi, qu'est-ce qui n'a encore pas été purifié à la croix? Qu'est-ce que je t'ai encore pas remis? Qu'est-ce qui est encore tordu dans ma vie? Et c'est quand le Saint-Esprit fait cette œuvre qu'on comprend qu'on en a besoin. Et quand on comprend qu'on en a besoin, on en bénéficie beaucoup plus. Si vous prenez la Sainte Cène en vous disant « Non, mais moi, c'est OK. Moi, je suis convertie, baptisée, hop. la Sainte Cène, ça ne va pas vous faire grand-chose. Mais si vous savez qu'il y a encore des choses qui vous tiennent liées, alors là, vous pouvez commencer à entrer dans ces choses spirituelles pour être transformé. Alors nous avons vu, je reprends des choses que j'ai dites la dernière fois, mais si vous êtes comme moi, je sais que taper sur le clou, c'est bien, c'est nécessaire. Moi, j'ai besoin d'entendre les choses plusieurs fois pour que ça rentre, pour que ça aille toujours plus profond. Alors, on a vu que Jésus s'est fait malédiction. Dans Galates 3:13, Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous, car il est écrit « Maudit est quiconque est pendu au bois ». C'est le corps de Jésus qui a été pendu au bois. C'est le corps de Jésus qui est devenu malédiction. Jésus s'est fait péché. 2 Corinthiens 5:21, celui qui n'a point connu le péché, il l'a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. 1 Pierre 2:24, lui qui a porté lui-même nos péchés en son corps. On n'est toujours pas dans le sang. Jésus s'est fait maladie. Ésaïe 53, versets 4 et 6, c'est ce qu'on vient de lire. Cependant, ce sont nos souffrances, en hébreu maladie, qu'il a portées avec son corps. C'est de nos douleurs physiques et mentales qu'il s'est chargé. Lui, par les meurtrissures duquel vous avez été guéri, c'est par les meurtrissures de son corps. Et Jésus, une quatrième chose, s'est fait pauvreté. 2 Corinthiens 8:9, car vous connaissez la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ qui pour vous s'est fait pauvre, de riche qu'il était, afin que par sa pauvreté vous fussiez enrichis. Ce que j'aimerais vous dire, c'est que si je vous ai remis ces quatre domaines, malédiction, péché, maladie, pauvreté, apprenez-les par cœur. C'est juste quatre mots. C'est juste quatre mots. Et essayez de vous dire, mais en quoi est-ce que ça me concerne ? Parce que quand vous allez commencer à prier, quand vous allez invoquer le Seigneur parce que vous avez besoin de lui dans votre vie, vous pouvez vous appuyer sur ces quatre domaines. En quoi est-ce que je suis concernée au niveau des malédictions, du péché, de la maladie, de la pauvreté? Qu'est-ce que ça signifie pour nous lorsque nous prenons la Sainte Cène? Paul nous a dit qu'il faut discerner le corps et le sang de Jésus. Il faut discerner, il faut savoir faire cette différence. Cela veut dire que je vais prier, que ce que je vais prier en prenant le pain, ce ne sera pas la même chose que ce que je vais prier en prenant le sang. C'est différent, mais c'est complémentaire. Dans la malédiction, vous pouvez mettre toutes les paroles assassines qu'on vous a dit depuis tout petit, ce que vous avez toujours entendu. Je vais prendre l'exemple de mon mari. Depuis tout petit, on lui a dit « t'es maladroit, t'es maladroit ». Ce qui fait que tout ce qui touchait, ben, par terre. À force de l'entendre, il le croit. Et pour finir, c'est des choses qui s'instaurent et qui prennent autorité dans la vie. Mais c'est faux. C'est des paroles assassines. À certains, on leur a dit « t'es trop petit ». À d'autres, « t'es trop grand ». « T'es trop blond, t'es trop roux, t'es trop truc, t'es trop je sais pas quoi ». On a tous entendu des choses comme ça. Et on a entendu des choses aussi bien plus graves que ça. Ça entre dans la malédiction. C'est quand vous prenez le pain, c'est ces choses-là. Vous savez chacun de quoi il s'agit. Vous le mettez là-dedans. Le péché, j'ai pas forcément besoin de faire un dessin, mais des fois c'est tellement subtil. Des fois on croit qu'on est ok, mais des fois c'est tellement subtil. Juste nos pensées un peu tordues, juste un petit compromis, juste une attitude. Le test c'est au volant de la voiture. Vous êtes toujours sanctifié ?
Waouh !
La maladie, pas besoin de faire un dessin. Moi, j'ai la chance, je suis en bonne santé. Mais quand je commence à mettre des choses dans le corps du Seigneur à propos de mon corps, je me rends compte que la liste est longue. Parce que malgré le fait que je suis en bonne santé, je ne vais pas commencer à vous décrire parce que je ne vais pas proclamer des choses mauvaises sur ma vie, mais j'ai des choses à mettre dans le corps de Jésus. J'ai besoin de Jésus dans mon corps. Pauvreté. Vous pouvez mettre dans le corps de Jésus votre pauvreté matérielle, bien sûr. Vous pouvez mettre votre pauvreté intellectuelle, votre intelligence. Si vous avez des difficultés dans l'étude, si vous avez des difficultés dans la compréhension, si vous avez des difficultés à vous dépatouiller dans la vie de tous les jours, les tracasseries, de la paperasse, de l'administration, vous pouvez demander au Seigneur qu'il vous enrichisse. votre pauvreté spirituelle, si vous avez des difficultés à être intime avec le Seigneur, si vous n'arrivez pas à saisir ces révélations, c'est de la pauvreté spirituelle. Si vous ne portez pas de fruits ou pas assez, c'est de la pauvreté spirituelle. Si vous n'arrivez pas à comprendre la parole, si c'est toujours intellectuel puis qu'elle ne va pas profond, c'est de la pauvreté spirituelle. Mais Jésus, il a porté tout ça. Donc, quand vous prenez le pain, c'est ces choses-là que vous mettez dans le pain. Alors, vous n'allez peut-être pas voir l'effet directement après avoir pris une première fois la Sainte Cène. Parce que, avec tout ce que j'ai décrit, vous êtes tous concernés par les quatre domaines. Donc, ça fait une liste assez longue. Des fois, on vit des saisons. Et des fois, c'est une chose principalement qu'il faut persévérer. Il persévérait dans la fraction du pain. Ben moi, il y a un domaine en ce moment dans ma vie qui bouge, qui bouillonne, et j'ai besoin de voir les fruits, j'ai besoin de voir des choses qui se passent, et je me concentre là-dessus. Quand je prends le repas du Seigneur, c'est surtout cette chose-là que je mets. Ben je sais qu'il y a d'autres choses qui suivront, mais je sais aussi que le Seigneur, souvent, quand il guérit une chose, ben, il en guérit plein d'autres sur le passage. Et je vois les fruits, des choses que je n'ai même pas demandées. Je vois que ça vient. Alors, ça vient petit à petit, mais ça vient. Alors moi, je vous encourage à persévérer. Persévérer dans la fraction du pain. Vous vous souvenez, le Seigneur a donné un autre repas après le repas de la Pâque, après la sortie d'Égypte. Vous vous souvenez? La manne. Tout le monde sait ce que c'est, la manne? Ok. Vous êtes avec moi? Je vous endors. On voit la description de la manne dans Exode 16. Le peuple venait d'assister à des miracles. 10 plaies, les 10 plaies d'Égypte. Ils ont vu la gloire de Dieu se manifester. Ils venaient de traverser la mer à pied sec, alors que tous ses ennemis ont été engloutis, même le Pharaon. Israël venait de trouver sa liberté miraculeusement. Et quoi? Le peuple murmure. Et toute l'assemblée des enfants d'Israël murmura dans le désert contre Moïse et Aaron. Les enfants d'Israël leur dirent, « Que ne sommes-nous morts par la main de l'Éternel dans le pays d'Égypte, quand nous étions assis près des pots de viande, quand nous mangeions du pain à satiété? Car vous nous avez menés dans ce désert pour faire mourir de faim toute cette multitude. » Le peuple a assisté à la puissance de Dieu, à ses prodiges. Il en a été bénéficiaire, mais il a faim. Et le moteur du peuple, apparemment, c'est l'estomac. L'estomac semble passer avant la liberté. Ils viennent de sortir de l'esclavage. Ils ont des regrets parce qu'ils ont faim. Ce que je comprends, moi, c'est qu'on a besoin d'être rempli. C'est physiologique. Il y a un creux là, il a besoin d'être comblé. C'est physiologique, c'est notre nature humaine. C'est comme ça que le Seigneur nous a fait. Dans Jean 6, 26, après la multiplication des pains, pour les 5000 hommes, la foule le lendemain s'est mise à la recherche de Jésus. Et Jésus leur dit, Jean 6, 26, « en vérité, je vous le dis, vous me cherchez, non parce que vous avez vu des signes, mais parce que vous avez mangé du pain et que vous avez été rassasiés. » Jésus vient de faire un miracle. Les interlocuteurs de Jésus ont assisté à un signe prodigieux, une multiplication extraordinaire. Mais il leur dit que ce n'est pas d'avoir vu ce miracle qui fait qu'ils ont besoin de Jésus et qu'ils le cherchent. C'est parce qu'ils ont été rassasiés et parce qu'ils veulent continuer à l'être. Même qu'ils ont été rassasiés, ça ne suffit pas, parce que le trou, il se refait. Et ils ont besoin encore à nouveau de le remplir. Alors aujourd'hui, de voir Jésus agir, ça nous exhorte, ça nous encourage, ça nous émerveille. Mais ce qui est bien plus important, ce qui nous comble, ce qui nous transforme, ce qui nous protège, ce qui nous équipe, c'est d'avoir Jésus en nous. C'est d'être rassasié de Jésus. Nous avons besoin que Jésus demeure en nous. Dieu connaît les besoins de son peuple. Dans Exode 16, 8, L'Éternel vous donnera ce soir de la viande à manger et le matin du pain à satiété. Exode 16-12, au coucher du soleil, vous mangerez de la viande et le matin, vous vous rassasirez de pain. Remarquez que ce n'est pas la viande qui rassasie, c'est le pain. Ça me plaît. Parce que vous avez mangé, vous avez été rassasié. Il faut être actif, il faut être acteur. Vous ne pouvez pas être rassasié sans manger. Vous pouvez être spectateur des œuvres de Dieu. Vous pouvez contempler les œuvres de Dieu. Vous pouvez y croire. Mais si vous voulez que Dieu agisse dans votre vie, il faut que vous entriez dans ces réalités. Et ça signifie être actif, manger, prendre à l'intérieur de vous, en activant votre foi, en comprenant ce que vous faites spirituellement, en quittant le naturel pour entrer dans le spirituel. La Sainte Cène est un moyen incontournable que Jésus nous a donné pour être remplis de lui. Jean 6, 55, Jésus nous dit « Car ma chair est vraiment une nourriture et mon sang est vraiment un breuvage. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang demeure en moi et je demeure en lui. » Demeurer, loger, résider, rester, s'attarder, ne pas partir, continuer à être présent. Quand je mange la chair de Jésus, quand je bois son sang, Jésus réside en moi. Il loge en moi, il s'attarde en moi, il ne part pas, il reste, il demeure, il s'installe. Il s'installe dans toutes les fibres de mon corps et même dans mon âme. Et ça me transforme, ça me bénit. Alors, qu'est-ce qui se passe physiquement quand on est rempli de Jésus? Allons décoder ce qu'il y avait dans la manne. 1 Corinthiens 10, 3 et 4. Ils ont tous mangé la même nourriture spirituelle et ils ont tous bu la même boisson spirituelle. En effet, ils buvaient un rocher spirituel qui les accompagnait et ce rocher était Christ. La manne était un aliment spirituel, mais c'était un aliment naturel. Ils mangeaient pour de vrai, le peuple, pour de vrai. Cette nourriture, elle ressemblait à des graines, elle ressemblait à de la rosée. Elle avait du goût, ça stimulait les papilles. C'était une vraie naturelle, une vraie nourriture naturelle, physique, palpable. Mais c'était une nourriture spirituelle. Et le peuple, dans le désert, n'avait pas la possibilité d'avoir des plantations, des cultures, des arbres fruitiers, des légumes, etc. Il n'y avait rien de tout ça. Mais tout était dans la manne. Il y avait des vitamines pour la concentration, la protection, l'immunité. Il y avait des protéines pour les muscles, pour le cœur. Pour la peau, il y avait des lipides, pour les graisses, pour protéger tout ce qu'on a à l'intérieur du corps, pour garder la chaleur. Il y avait des oligo-éléments et des électrolytes pour l'équilibre, pour le fonctionnement de chaque organe. Il y avait du sucre pour l'énergie, la vitalité. Il y avait des fibres pour la digestion, etc., etc. Il y avait tout dans la manne. Il y avait tout. Et le résultat? Le résultat, on l'a dans Néhémie 9, 20, 21. Tu leur donnas ton bon esprit pour les rendre sages. Tu ne retiras point ta manne de leur bouche. Et tu leur donnas de l'eau pour leur soif. Tu les nourris 40 ans dans le désert sans que rien leur manquât. Leurs vêtements ne s'usèrent point et leurs pieds n'enflèrent point. C'est du corps qu'il s'agit. Après 40 ans de marche dans le désert, le peuple n'était pas malade. Dieu les a nourris miraculeusement. Le peuple a été préservé des infirmités, des infections, des piqûres, des blessures, des maladies. Même leurs habits n'ont pas été usés. Est-ce que ce n'est pas de la nourriture spirituelle? Est-ce que ce n'est pas de la nourriture surnaturelle? Et ça, mes amis, on est dans l'ancienne alliance. Nous, on est dans la nouvelle. Il y a un truc à comprendre là. Ce qu'on doit vivre, ça doit être encore mieux. Ils ont tous mangé la manne et leur corps a été préservé. Tu les nourris 40 ans et rien ne leur manqua. Comment est-ce possible? Exode 16, 4. L'Éternel dit à Moïse, « Voici, je ferai pleuvoir pour vous du pain du haut des cieux. » Pleuvoir du pain du haut des cieux. C'est comme la neige. Ça descend du ciel. C'est le pain qui descend du ciel. Un aliment qui vient directement du trône du Dieu vivant. Jésus leur dit, Jean 6, 31-33, « en vérité, je vous le dis, ce n'est pas Moïse qui vous a donné le pain du ciel, mais c'est mon Père qui vous donne le vrai pain du ciel. » En effet, le pain de Dieu, c'est celui qui descend du ciel et qui donne la vie au monde. Jésus leur dit, « c'est moi qui suis le pain de vie. » Le pain que nous rompons, le corps, la chair de Jésus, c'est le pain du ciel, c'est le pain de la vie. Ce pain-là, c'est le Dieu du ciel, c'est notre Créateur, c'est ce Dieu-là, c'est ce pain-là. Déjà dans l'Ancienne Alliance, Jésus, le pain du ciel, était présent. Le peuple hébreu a pris la Sainte Cène tous les jours et ils ne le savaient pas. Ils ont consommé le corps de Jésus. Et ils ne le savaient pas. Mais ils ont été fortifiés, ils ont été équipés, ils ont été protégés. Dans le corps de Jésus, il y a tous les principes actifs de vie nécessaires à la santé de notre corps. Et même plus. Parce que Jésus, au moment de la fraction du pain, vient se répandre dans notre corps et dans notre âme. Il vient aussi guérir nos maladies mentales, psychologiques, émotionnelles. Il a pris notre pauvreté. N'oubliez pas ces quatre éléments. À la fin des 40 ans, dans le désert, après avoir mangé la manne, à la fin du voyage, aux portes du pays promis, logiquement, le peuple aurait dû être fatigué, épuisé, vulnérable. Mais voilà, Sihon, le roi de Hesbon, et Og, le roi de Bazan, vient pour l'attaquer. Deutéronome 29, 6. Sihon, le roi de Hesbon, et Og, le roi du Bazan, sont sortis à notre rencontre pour nous combattre. Et nous les avons battus. Petite parenthèse, ces rois amoréens, en fait, je n'ai pas le temps de vous en parler, mais autant vous dire qu'ils étaient corrompus dans leur nature, au plus profond de leur nature. C'étaient des fils du diable. Par exemple, Og, roi de Bazan, était un géant. Son lit mesurait 4,5 mètres de long et 2 de large. L'adversaire était de taille. Et le peuple hébreu, qui se retrouve en face de ces peuples de géants qui veulent les attaquer, les empêcher d'entrer dans leur pays promis, ce peuple venait de passer 40 ans dans le désert, avec troupeaux, femmes, enfants, femmes allaitantes, femmes enceintes. Et voilà qu'ils ont battu les géants. Si la manne avait été pour eux un symbole, plutôt qu'un repas dont ils se sont nourris, jour après jour, il serait mort dans le désert. Ou alors il serait mort au combat. Mais dans la manne du Seigneur, il y a tout ce qu'il faut pour vaincre les géants. Et dans la chair de Jésus que nous allons prendre, il y a tout ce qu'il faut pour combattre nos géants. Et nous connaissons tous ce que c'est quand on va remporter une victoire ou qu'on l'a remportée. On sait ce que c'est l'opposition. On sait ce que c'est l'intimidation. Je suis sûre que vous avez tous fait l'expérience. Mais dans le repas du Seigneur, vous avez tout ce qu'il faut pour vaincre ces géants qui essayent de s'opposer à votre entrée dans la terre promise. Dans Exode 16, 35, à la fin du chapitre d'Exode, à la fin de ses 40 ans, les enfants d'Israël mangèrent la manne pendant 40 ans jusqu'à leur arrivée dans un pays habité. Ils mangèrent la manne jusqu'à leur arrivée aux frontières du pays de Canaan. Dieu a donné le pain du ciel, la manne, jusqu'à ce que le peuple entre en terre promise, jusqu'à ce qu'ils puissent consommer les fruits et l'abondance de leur nouvelle terre. De même, le Seigneur nous donne son corps à manger, son sang à boire, jusqu'à la fin de notre séjour terrestre. Parce que nous sommes dans un combat et que nous en avons besoin. Jusqu'à l'entrée dans notre patrie céleste. On a besoin de persévérer dans la fraction du pain. Dieu, le Père, nous a donné le pain du ciel, le pain des lieux célestes, où règne la gloire, la majesté, l'autorité, la victoire, la magnificence, le pain qui descend directement de ces lieux glorieux et redoutables. Nous avons tout ce qu'il faut pour vaincre nos géants. Mais il faut le manger, il faut le boire. Petite parenthèse, je suis souvent frustrée. Je suis souvent frustrée parce que la taille du pain, c'est tellement petit. Je ne veux pas être mystique en me disant que si j'en mange un plus grand morceau, je serai plus bénie. Mais ma foi, elle a besoin d'être stimulée. Et je me rends compte que si je mange un plus gros morceau de pain, j'ai le temps, le mâchant, de prier, de recevoir, de sentir que ça descend et que ça remplit mon corps. Et quand je bois le sang du Seigneur, j'ai besoin de le sentir. Alors, ici, on est dans une communauté, on est beaucoup. Je me disais, mais pour cette prédication, je devrais faire des pains sans levain ou qu'on va casser. Je ne suis pas tellement une cuisinière et je ne sais pas les quantités et ça m'a stressée et j'ai rien fait. Voilà. Mais peu importe, ce qui est important, c'est ce qui est spirituel. Et s'il n'y a pas seulement ici qu'on peut prendre la fraction du pain. Il persévérait dans la fraction du pain dans les maisons, dans les groupes de maisons. Vous pouvez prendre la fraction du pain dans vos familles, pourvu que ce soit fait selon la prescription du Seigneur, selon son ordonnance, selon tout ce qui est mentionné dans la parole. Et si vous vivez quelque chose de particulier que vous devez régler dans votre vie, persévérez dans la fraction du pain. Il y a des fois où il ne vous faudra pas attendre le dimanche matin. Parfois, ce sera une urgence. Mais faites les choses par conviction. Sachez pourquoi vous le faites et faites-le bien. En conclusion, dans la nuit où il fut livré, Jésus prit du pain, rendit grâce et le rompit. C'était durant la Pâque, au début de la fête des pains sans levain. Dans la parole, le levain représente presque toujours le péché. Dans la nuit où il fut livré, Jésus prit du pain sans levain, rendit grâce, le rompit et dit « Ceci est mon corps ». La manne, c'était le corps de Jésus, bien sûr, mais c'était le corps de l'ancienne alliance. C'était le corps de Jésus, saint, purifié. Jésus n'était encore pas venu sur terre, donc il était sans péché. Nous sommes sous la nouvelle alliance. Le corps que nous mangeons, c'est le corps ressuscité. Il est plus excellent encore. Donc quand vous mettez vos malédictions, votre pauvreté, etc. dans le corps de Jésus, ce n'est pas ce corps rempli de péché, de malédiction que vous mangez en retour. Comprenez-le bien. Vous mettez tout ça parce qu'il y a eu un jugement sur le corps de Jésus. Mais le corps de Jésus que vous mangez, il a passé par la croix. Il y a eu le passage entre-temps. Et c'est le corps glorifié de Jésus que vous prenez. Et c'est pour ça qu'il peut agir en vous avec autant de puissance. Nous avons besoin de dresser la table du roi. Nous avons besoin de manger à sa table. Et il va venir nous rejoindre, nous équiper, nous protéger, nous restaurer dans tous les domaines de notre vie, interne et externe. Même nos circonstances vont être modifiées. Alors, je vous encourage, quand vous prenez le repas, sanctifiez les aliments que vous allez manger. Parce que pour l'instant, comme je vous ai dit l'autre fois, ce pain, c'est du pain, ce jus de raisin, c'est du jus de raisin. Peut-être même que c'est du pain de la Migros. Mais quand vous l'aurez sanctifié comme étant le corps de Jésus, Seigneur, je te remercie pour ce pain, je le sanctifie, c'est ton corps. C'est plus le pain de la Migros, c'est le pain du ciel. Et la même chose, quand vous priez pour le vin, Seigneur, je sanctifie, je mets à part, je consacre ce vin, ton sang. Et c'est le sang du ciel. Et ensuite, soyez actifs. Vous savez ce qui est prioritaire. Vous savez ce qui a besoin d'être guéri, touché, rencontré par le Seigneur. Mettez ces choses-là dans le pain. Mettez ces choses-là dans le pain. Et prenez la force en retour. Et le sang, on en parlera une autre fois, mais vous savez déjà que le sang purifie, qu'il lave les péchés. Alors proclamez déjà ces choses, toutes ces choses que vous connaissez déjà, vous connaissez presque tout. J'essaierai moi de vous parler un peu de mots difficiles comme l'expiation, la rédemption, qu'est-ce qu'il y a dans le sang. Mais pour l'instant, tout ce que vous savez déjà, mettez-le dans le sang et prenez-le, saisissez-le par la foi. Et moi, je mets ma foi en action que dans notre Église, on va commencer à vivre des choses exceptionnelles et que le Seigneur va nous restituer ce repas. Seigneur, je te remercie. Je te remercie pour ta parole qui nous enseigne. Je te remercie pour ce repas merveilleux, ce repas glorieux, ce repas puissant que tu nous as donné. Mais Saint-Esprit, on a tellement besoin de toi. Moi, je sens que sans toi, c'est ma tête qui parle, c'est ma tête qui reçoit, c'est ma tête qui agit et je ne veux pas de ça. Je veux que ce soit mon esprit, je veux que ce soit ta révélation. J'ai besoin de saisir les choses comme tu les as prévues initialement. Alors Père, dans le nom de Jésus, je te demande ton Saint-Esprit qui nous convainque. Que ton Saint-Esprit nous aide à saisir ces révélations. Et je te demande un miracle dans cette communauté. Je te demande que tes révélations maintenant fassent leur œuvre, semaine après semaine, qu'on puisse témoigner de ce que tu as fait au travers de ton repas magnifique. Merci de nous restituer ce qui nous a été volé. Merci de te glorifier, Jésus, dans ce repas, parce que nous te devons tout. Je bénis ton nom, Seigneur. Gloire à toi, Jésus. Tu es merveilleux. Amen.